il ne s'agit pas d'une adoration du soleil.
Le mot Aton était employé à la place de l'ancien mot désignant les dieux, et ces dieux se différencient nettement du soleil matériel. Il est évident que ce qui déifiait le souverain, Akhenaton, c'était la force avec laquelle le soleil agit sur la terre. Autrement dit, la force divine unique existant dans l'univers, et force qui se traduit également par une force solaire, mais qui est différente du soleil lui-même. Ce sont des mots, dit Hermann, destinés à exprimer sous une forme abstraite que ce n'est pas aux étoiles que s'adressait le culte, mais à l'être vivant qui s'y manifestait en elles. Donc, de façon telle, si nous suivons donc Freud à la lettre, qu'effectivement, il y a derrière cette adoration des forces de la nature rien d'autre que la reconnaissance d'une force unique. C'est précisément l'argumentation maïmonidéenne. Or, il est intéressant de voir ici la fascination de Freud par ce culte du soleil qui apparaît pour lui comme un culte monothéiste, un culte de la force unique du soleil. Et il continue d'ailleurs dans un autre texte plus loin dans son livre et que les Égyptiens avec Akhenaton avaient un rejet de toutes les tentations de la pensée magique et ils rejettent l'illusion d'une vie après la mort. Avec une étonnante intuition des vues scientifiques ultérieures, le pharaon Akhenaton proclama que l'énergie solaire constitue la source de toute vie sur la terre et doit être adorée en tant que symbole du pouvoir divin. Il est fier de jouir de la création et de sa propre vie dans la justice et la vérité, et c'est là le premier, sans doute le plus pur cas des religions monothéistes dans l'histoire de l'humanité. C'est intéressant de voir cet enthousiasme de Freud qui considère au fond cette religion d'Akhenaton comme un pas vers le monothéisme pur, comme une compréhension et des connaissances de l'univers, alors que Maïmonide décrivait ce même phénomène comme une illusion religieuse et certainement pas comme la sortie de l'illusion. Et Freud voit ici une anticipation des idées scientifiques modernes sur la force du rayonnement solaire, sur l'importance du rayonnement solaire, alors que Maïmonide voit ici un véritable piège qui détourne l'homme de la véritable force de la divine en admettant l'existence d'une force qui, elle, serait divine ou invisible, mais qui serait finalement une force naturelle. Et cette contradiction est très importante parce qu'elle éclaire finalement un problème de fond, et que derrière les dénonciations qu'on peut trouver parfois de l'illusion religieuse, on peut également trouver parfois la retombée dans des illusions ou dans des mythes de nature différente. Freud admettait-il l'idée d'un monothéisme originel? On est frappé par la question parce qu'en lisant d'autres textes, on constate que c'est le totémisme qui apparaît. Est-ce Freud est-il... si on peut dire que Freud admet-il qu'il y a un monothéisme originel? Parfois, Freud ne l'admet pas. Mais dans d'autres textes, il semble avoir une admission nuancée quand il dit qu'il est exact que chez les primitifs actuels, nous trouvons comme seul contenu de leur religion le culte d'un être suprême. Mais nous devons considérer ces faits comme un arrêt de l'évolution religieuse. Et nous pouvons les mettre en parallèle avec des névroses rudimentaires rencontrées dans la psychologie pathologique. De façon telle que s'il y a, dit Freud, monothéisme originel, et si on trouve parfois des peuplades primitives qui continuent à admettre, comme les premiers hommes, qu'il y a un seul créateur, il ne s'agit de rien d'autre que d'un monothéisme primitif. Pour comprendre cela, il est important de signaler dans quel contexte se situe donc cette polémique freudienne. À l'époque de Freud, une école très importante existe encore dans l'anthropologie européenne, c'est l'école d'un prêtre, le père Wilhelm Schmidt, qui lui postule l'existence d'un monothéisme originel. C'est un prêtre autrichien établi à Rome sous l'époque du régime fasciste, et qui a donc une très grande influence dans le milieu du Vatican et auprès d'un certain nombre de gouvernements européens. Schmitt, qui ne croit absolument pas à l'évolutionnisme, qui ne croit pas à une évolution des croyances religieuses, il professe une sorte de diffusionnisme. Les croyances religieuses se répandent à partir d'un noyau, un noyau qui diffuse une croyance particulière à travers toute la civilisation. Or, à l'origine, l'humanité était monothéiste, et il essayera de prouver cette thèse on était avec une sorte de un certain nombre de recherches dans une tribu primitive et où on ne trouve que l'existence d'un être suprême. Là, la théorie de Schmitt apparaîtra donc en opposition à la théorie freudienne, et il y a bien sûr entre Schmitt et Freud le plus mauvais rapport, étant donné d'une part le contexte politique de l'époque, et étant donné d'autre part aussi les implications théologiques de la doctrine de Schmitt. Autrement dit, mais là, bien entendu, nous en parlerons de cette question par la suite, en parlant peut-être au cours du débat. Ce qui est important de signaler, c'est mettre en parallèle cette opposition entre deux visions. D'une part, la vision juive traditionnelle, et d'autre part, la vision psychanalytique. Il y a tout de même, et malgré l'opposition de ces deux schémas, dont l'un verrait dans le monothéisme l'origine religieuse de l'humanité, et dans le polythéisme rien d'autre que des formes dégradées de ce monothéisme originel, alors que l'autre postulerait une lente évolution qui conduira à des formes du monothéisme, il y a tout de même un élément commun, que c'est ce balancement entre l'un et le multiple, aussi bien pour Maïmonide que pour l'anthropologie psychanalytique moderne. Il y a tout au long de l'histoire de l'humanité une tentation continuelle de retour de l'un à l'autre. À chaque instant, on perçoit des mouvements dans un sens et dans l'autre. Il n'y a donc pas du tout d'évolution linéaire. Et l'expérience religieuse ne peut pas être saisie, n'est-ce pas, et comme à la façon de l'histoire positiviste, avec des étapes parfaites et claires. Il y a donc une richesse du phénomène religieux tel qu'il est impossible de tirer cette conclusion. Et là, on se trouve donc au point central, le problème de l'illusion. Il est clair que là, il n'y a pas de tout d'accord entre ces deux visions. D'une part, dans le judaïsme, il y a une illusion religieuse. Mais cette illusion telle qu'elle est décrite par Maïmonide, est à être comparée à ce qui peut exister en tant que vérité théologique fondamentale, ce que Maïmonide ne conteste absolument pas. Dans l'esprit freudien, par contre, je fais la distinction bien entendu entre l'esprit freudien et l'esprit du mouvement psychanalytique en général. Dans l'esprit freudien, toute vision religieuse apparaît comme une illusion. Et là, il est important de signaler que si même dans cet esprit freudien, toute vision religieuse apparaît comme une illusion, l'homme n'est pas pour autant libéré de toute illusion, et nous l'avons vu avec la fascination freudienne par le culte du soleil d'Akkad.
Nous allons tout de suite donner la parole à M. Rabban Lemon Ashkenazi, où je crois que déjà la confrontation pourra commencer, et l'échange avec vous-même.
Merci. Et, avant de dire que je vais avoir une tâche assez difficile, parce que l'exposé de M. Roski était tellement plein dans la clarté du plan, tellement plein d'informations, d'analyses et de directions de pensée, qu'à travers les quelques notes que j'ai eu le temps de prendre, nous risquerions de rester jusqu'à demain matin. Par conséquent, je vais être obligé d'être très succinct et de me borner à une mise en évidence du point de vue des catégories traditionnelles à proprement parler, de ce que j'appellerais, bien entendu, une critique de méthode sur chacun des deux points. Et premièrement, l'exposé concernant la vision anthropologique de la tradition juive sur ce problème de l'origine du paganisme ou des religions païennes, et deuxièmement sur la position de la méthode freudienne concernant ce même problème. Et comme vous le savez, lorsque nous préparons ces séminaires entre Jérusalem et Paris, et le point de jonction se passe quelque part au niveau de la Méditerranée, je suppose. On ne se concerte pas forcément dans le détail des thèmes et des références qui seront choisis. Et il arrive souvent, et c'est le cas encore ce soir, que des convergences apparaissent, et c'est naturel. Nous avons en fin de compte les mêmes sources. Et sachant, connaissant à l'avance l'attachement que M. Roski a pour Moshe Ben Maïmon, pour Moïse Maïmonide, Je n'ai pas choisi une référence dans Maïmonide, celle qui vous a été exposée, mais j'ai préféré choisir, j'en traiterai en particulier jeudi soir lorsque je devrais parler de l'explication du sentiment païen d'après la tradition juive, J'ai choisi une toute autre référence qui est celle du Nefesh HaChayim, qui est un ouvrage important, bien que petit par le volume, du Rav Chaim de Volozhin, qui est le Talmud Chaver, le disciple, et plus que le disciple, du Gaon de Vilna. Mais les deux références, celle du Rav Chaim de Volozhin et celle du Rambam, celle de Maïmonide, ont la même source, c'est l'apparition au niveau du texte du récit biblique dans la Genèse du paganisme au sein de Enoch. Je vais évidemment, jeudi soir, à me référer à ce texte de base de la Genèse, mais je crois qu'il est nécessaire déjà de commencer par l'exposer ce soir, parce que je voudrais mettre en évidence ce point de critique de méthode auquel j'arrive tout de suite pour la première partie. Petite parenthèse, je crois que nous sommes en train de donner par notre choix de référence une sorte de témoignage de monothéisme, puisque Rosky, qui est d'origine ashkénaze, a cité un rabbin sfarad, et que moi je vais vous citer un rabbin ashkénaze. Et voilà, je crois que c'est le mot de croyance qui m'a frappé dans la première partie de l'exposé, et il y a là une sorte de postulat que j'appellerais le postulat de lecture universitaire ou de méthode universitaire, qui est légitime chez les universitaires, mais qui, lorsqu'il est imputé purement et simplement à Maïmonide, risque de faire problème. Quel est ce postulat universitaire dans la question qui nous occupe? C'est qu'il s'agit dans tous les cas, tant dans le paganisme que dans le monothéisme lui-même de la tradition hébraïque, d'un phénomène de croyance. C'est-à-dire que on parle de représentation intellectuelle ou imaginative, mais procédant de l'homme de façon radicalement immanente. On ne fait aucune allusion à ce qui est l'ensemble des postulats du récit biblique et de l'enseignement de la Bible, et qui est celui de la révélation, que je désignerai par un terme technique, mais qui désigne tout à fait notre problème, celui de théophanie, c'est-à-dire de révélation de celui qui est Dieu, que ce soit dans le registre des paganismes, que ce soit dans le registre de la prophétie hébraïque, et c'est un phénomène différent que le phénomène de la prophétie à proprement parler. Nous avons divisé l'ensemble du sujet sur les illusions pour les trois séminaires de l'année en trois points, que vous a signalé Rosely tout à l'heure. Le point qui occupe notre séminaire de décembre, c'est les faux dieux. Nous parlons du problème de la prophétie et des faux prophètes plus abondamment dans le deuxième séminaire. Je m'explique. Il y a là, si vous voulez, le postulat de désigner tout le phénomène de l'expérience religieuse, qu'elle soit un postulat universitaire, de type philosophique, qu'elle soit païenne ou monothéiste hébraïque, comme un phénomène de croyance. C'est-à-dire, c'est l'homme qui se formule à lui-même l'objet de sa croyance, que cela soit au niveau notionnel, des notions intellectuelles, que ce soit au niveau des représentations de l'imagination, à proprement parler, idolâtrie. Ce qui est mis entre parenthèses, c'est le phénomène, le fait religieux fondamental, tel qu'en parle la Bible, tel qu'en parlent aussi les anciennes traditions païennes de théophanie, c'est-à-dire de révélation de la divinité elle-même. Et là, je crois, un problème de méthode de l'approche de notre question qui est extrêmement important. Et je voudrais l'analyser de cette manière en passant par un certain nombre de références bibliques. Mais je voudrais dire tout de suite, je vous excuserai peut-être un peu le décousu de mon propos, mais je réagis en premier lieu à des formulations qui m'ont frappé dans l'analyse du problème. Un mot a manqué dans cet exposé, et je crois que ça fait partie aussi du postulat universitaire. C'est un mot que je vais en français, mais qui est très important du point de vue de la vision de la tradition juive, de la tradition hébraïque, dont nous sommes des héritiers en tant que juifs, de ce problème. C'est le mot de morale, c'est-à-dire quel rapport y a-t-il entre la désignation des valeurs morales et l'expérience religieuse. Il y a là un moment important de notre question qu'on ne peut pas esquiver. Une des grandes séparations entre la mentalité religieuse hébraïque et la mentalité religieuse païenne, l'ensemble des religions de ce type, c'est la place de la morale dans l'expérience religieuse. Et tout se passe comme si nous avions ici un couple antinomique très, très schématique, mais très, très clair. D'une part, le cas de l'expérience religieuse hébraïque qui s'identifie avec l'expérience morale, et d'autre part, le cas de l'expérience religieuse païenne, où morale et religion sont distincts, bien que reliés au niveau d'une certaine d'un certain code de la conduite et où parfois s'entremêlent des préoccupations à proprement parler religieuses et des préoccupations morales. Et je crois que ça a manqué dans les deux points de l'exposé, et ce n'est pas du tout un grief ou un critique, c'est juste dans le sens négatif. Je crois que je dois imputer cela à la méthode universitaire traitant de ce problème. Probablement parce qu'elle est de double origine, du point de vue de son imprégnation de substrat culturel, d'une part philosophique, et d'autre part de connotation chrétienne. Je prends par exemple, ça vient de l'association d'idées, une formule de Bergson, qui est le titre d'un de ses livres importants, les deux sources, de la morale et de la religion. Il y en a une dualité qui n'est pas d'origine de l'hébraïque. Je crois que ce qui différencie, là je vais le faire un peu à la prophétie, ce qui différencie les prophètes hébreux de toute autre expérience analogue dans les religions extérieures à la Bible, c'est la place de la morale dans l'expérience religieuse. Le prophète hébreu identifie, il dit tout à la fois le propos moral et le propos religieux, ce que nous ne trouvons pas de cette manière dans les paganismes. Mais je reviens surtout sur le premier point, à ce que j'essaierai de présenter comme une critique de la notion de croyance. Dans la tradition hébraïque, la notion de croyance est très dérivée, elle est très tardive. Elle apparaît, il a nécessité de s'en préoccuper, à partir du moment de la cessation de l'expérience prophétique et de la cessation des événements que raconte la Bible, que décrit la Bible. Et vous savez à quel point la Bible est un livre, il faut prendre le mot, il faut prendre la lettre, il faut comprendre l'esprit. La cessation des événements de Théophanie. Et je ne crois pas qu'on puisse imputer à Maïmonide la mise entre parenthèses de l'essentiel du récit biblique, en particulier la Théophanie du Sinaï, et où très clairement, en particulier dans le Talmud de Torah, il en parle comme d'un événement historique, d'un événement concret, d'une expérience de dévoilement, de révélation, et non pas seulement d'un événement intellectuel dans l'histoire des croyances. Là, je crois que je suis peut-être un des points essentiels que je voudrais expliquer. Il y a un événement que le postulat universitaire, lorsqu'il traite de ce problème, met complètement entre parenthèses. C'est que le récit biblique annonce lui-même qu'il arrivera un temps de l'arrêt de la prophétie. Et nous nous situons culturellement après ce temps-là. Je reviendrai sur ce point peut-être un peu plus en détail jeudi soir. Et cet événement s'est produit il y a 2400 ans selon le calendrier hébraïque. C'est-à-dire que cette évidence immédiate et première du fait de théophanie, j'aurais préféré parler hébreu, mais je parle en français, du fait de dilouille, de dévoilement de la divinité qui parle à sa créature. Et puis c'est la créature qui entend la manière dont elle entend. Et là vient un cas particulier d'écoute dans l'oreille hébraïque. Eh bien, cet événement, il est annoncé que cet événement cessera. Et nous nous situons depuis ce temps-là, depuis la destruction du premier temps, dans un temps culturel autre, radicalement autre, selon la cohérence même de la tradition hébraïque et de la tradition juive. Nous nous situons dans un temps où l'événement de dévoilement a cessé. Et lui succède un temps culturel d'expérience, d'inspiration, d'expérience surtout, en tout cas dans le monde de la culture occidentale, à partir des philosophes grecs, d'expérience surtout intellectuelle. Et c'est là que se situe l'important du phénomène de croyance, c'est-à-dire l'homme pensant sa manière de s'expliquer sa relation au monde et dans son explication parlant de son idée de Dieu. Alors que la désignation de l'expérience religieuse, tant au niveau authentique du monothéisme biblique que dans sa condamnation de l'expérience dévoyée ou faussée de l'expérience païenne, ne parle pas d'un phénomène de croyance. Elle parle d'un phénomène d'expérience de dévoilement de la divinité. Le modèle est très gêné pour acquiescer à cette lecture, parce qu'il n'en a pas expérience. Et c'est pourquoi il faut introduire un concept médiateur de la tradition, qui lui est un phénomène de mémoire. Bien entendu, il n'est pas à déconseiller d'être capable d'intellectualité pour comprendre l'enseignement biblique, mais il n'est pas d'abord un enseignement d'intellectualité, il est d'abord un enseignement prophétique. Et nous vivons dans le temps juif, nous nous relions au temps hébreu par un phénomène de mémoire. Je dis cela non pas pour critiquer Maïmonide lui-même, car je ne plaise c'est l'expression talmudique, qui va oser entrer sa tête dans les montagnes. Les montagnes, c'est les géants de la tradition. Une autre référence pour indiquer que la critique de l'opéra ne porte pas sur le contenu maïmonidien, mais peut-être sur le risque d'une approche universitaire qui imputerait à Maïmonide les postulats universitaires, n'oublions pas que Maïmonide était pas mal.
Est-ce que vous permettez, je vais reprendre le thème qui est débattu maintenant entre vous, en le formulant d'une autre manière pour vous questionner. On peut entendre effectivement ce qu'a dit Frank Lahovski, comme vous venez de le présenter. On peut entendre aussi ce qu'il a dit comme un rappel des étapes franchies par l'humanité au niveau de la représentation, non pas au niveau de croyances statiques, admises, acceptées, mais au niveau d'un accès progressif à la représentation de soi du monde dans quelque chose qui était une démarche de recherche. Et cette démarche de recherche, elle se faisait simultanément, on le voit même dans la philosophie chez les Grecs aussi, c'était une démarche de recherche, non pas de croyance. Elle se fait, par exemple, on le voit aussi chez Freud, où cet essai de représentation, quand il parle de Moïse, du monothéisme, etc., ce ne sont pas des thèses universitaires, ce sont des thèses trouvées dans la clinique sur des gens avec des gens qui se cherchent et qui cherchent à se représenter comment ils fonctionnent pour mieux fonctionner. Ce qui correspond un peu à la démarche, je dirais aussi, abrahamique, qui, par ce travail sur lui-même, accédait à quelque chose. Et c'est là que je vous pose la question, et les rappels que j'ai fait des parallélismes. Si on prend aussi bien l'histoire hébraïque que l'histoire de l'humanité sur le plan d'une tentative de représentation, dans laquelle peut-être d'un côté il y a une différence de degré de révélation, comme vous l'indiquez, mais quand même comme une tentative de représentation pour accéder à l'identité de soi et pour la gérer.
Bien, écoutez, je ne pense pas que ce que vous venez de dire change notablement, modifie notablement mon propos. En ce sens que vous désignez aussi, et peut-être que si nous n'aurons le temps de parler que de ce point ce soir, ce serait important, mais j'indiquerai au moins pour mémoire une deuxième remarque concernant la deuxième partie. Et je l'indique tout de suite, la confusion qu'il me semble avoir entendue dans l'exposé de l'anthropologie freudienne, de Freud lui-même, entre monothéisme et monolatrie, à propos du culte du soleil. Mais je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Et c'est extrêmement différent, il me semble. Donc, je crois que ce que je suis en train d'essayer de dire là est difficilement entendu en quelques phrases, en quelques mots. Parce que ce qui nous sépare du temps dont je parle en parlant du temps hébraïque, c'est une épaisseur de durée considérable de 2400 à 500 années de temps culturel. C'est-à-dire que nous, les modernes, depuis ce temps-là, nous étions entrés dans la modernité, je parle de l'homme de culture occidentale, parlons de l'événement de révélation comme s'il était uniquement un événement du registre de la tentative de l'homme pour essayer d'élucider comment il se représente, mais on ne parle plus de l'objet du révélé comme événement, comme expérience. On continue à en parler presque exclusivement, je n'insiste rien sur les opinions personnelles de Lahovski. Je parle du point de vue de méthode de l'exposé de Lahovski ou de Maïmonide d'ailleurs, comme si en réalité l'événement qui est désigné dans la foi de cette croyance n'a pas eu lieu, que c'est un événement de projection, soit intellectuelle, soit à travers la sensibilité affective et donc de l'imaginaire, quelque chose d'extrêmement important. Et il y a là un postulat, au fond, athéiste, dans ce déisme-là, si j'ose dire. Ce que j'essaye de répéter, et je m'excuse d'avoir à le répéter, c'est cela. C'est que, ou bien, nous prenons le récit biblique comme il se donne. Il y a eu un temps de théophanie, et ce temps a cessé. Ou bien, nous le lisons comme s'il était lui-même un mythe. Et alors, je crois que c'est au moins nécessaire de le signaler. J'en arrive tout de suite à Abraham. Et là je compte tout à fait, en français, je sais plus, je tiens compte, je ne sais pas comment dire, à la forme même de l'exposé de Lahovski. Effectivement, l'enseignement de Maïmonide, encore une fois, exprimé à travers études à l'université sans effectivement parler d'un phénomène de savoir, sans effectivement parler surtout d'une capacité d'intelligence qui ferait qu'on serait authentique monothéiste ou alors d'un monothéisme dégradé qui serait le polythéisme. Parce que Maïmonide a délibérément choisi de mettre entre parenthèses, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler l'évolutionnisme dans l'histoire. La vision de Maïmonide est dans son option d'exposer subspecie éternitatiste, si j'ose dire, beaucoup plus que celle par exemple de Gilbert Lévy, qui lui tient compte de ce qui se passe dans l'histoire et dans la durée de l'histoire, et pas seulement de l'histoire des croyances, encore une fois, pas seulement de l'histoire des idées, mais de l'histoire des événements. Ce qui me gêne un peu, si vous voulez, intervenir aussi succinctement dans ce problème, c'est que je crois que ce point-là reste un peu non élucidé. Je n'arrive à voir tous les textes qui en parlent, surtout dans le Midrash, nous montre que l'expérience d'Abraham n'était pas une expérience intellectuelle de type philosophique, l'expérience d'Abraham redécouvrant le Dieu unique, mais une expérience de vertu, une expérience de notre ordre. Il se connaît comme créature, et par là il connaît son créateur. Alors le créateur se dévoile à lui et se révèle à lui. Voilà, si vous voulez, pour le premier point, et je voudrais peut-être ajouter une remarque. C'est que nous, les modernes, et depuis très longtemps, nous sommes peut-être, pas suffisamment en situation d'expérience pour essayer de comprendre de quoi parler ces anciennes traditions lorsqu'elles parlent de leur propre expérience religieuse, et je pense pas seulement aux Hébreux. Je pense aussi à ces traditions dites païennes et dites polythéistes de l'Antiquité. Je vais vous raconter une petite anecdote de mon expérience d'élève de lycée. Je suppose que c'est encore le cas aujourd'hui. Dans le programme de la classe de 6e, il y a en histoire l'histoire des traditions de l'Antiquité. Alors il y a un chapitre dans les livres d'histoire. Vous direz si c'est encore le cas dans l'organisation des programmes encore aujourd'hui, sur les Grecs anciens, sur les Égyptiens anciens, sur les. Moi, les Aztèques, les Phéniciens, les Babyloniens et aussi les Hébreux. Je me souviens de ce qui m'est arrivé en classe de 5e. Pendant que, en même temps que j'étais au lycée, j'étais aussi au Talmud Torah. Bon. Et alors, les Hébreux, ça me diffère sur quelque chose. Alors, il est arrivé, une espèce de coïncidence comme il arrive souvent, que le jour de la composition sur cette partie du programme, on a eu les Hébreux. Alors, devinez, j'étais le premier de la classe. Le professeur était un peu. Comment dire, ils m'ont pas étonné, ils m'ont pas surpris. Alors je me demandais, mais d'où vous avez tout ça? J'ai eu la naïveté de répondre, c'est que je suis un Hébreu. Et là, en réalité, j'étais au Talmud Torah. À l'époque, je n'étais encore que. Non, mais j'étais juif d'origine hébraïque. Et là, comment dire, l'impression que j'ai eue, c'est celle-là, à cette époque. Si les auteurs de manuels disent de telles choses lorsqu'ils parlent des Hébreux, alors peut-être qu'ils disent aussi de telles choses. Nous disons en Hébreu, je trouve qu'on fait des choses pas sérieuses. Lorsqu'ils parlent aussi des anciens Grecs, des anciens Égyptiens, des anciens Phéniciens, des Aztèques, etc. Alors je crois que cette espèce de schéma qui consiste à ramener l'histoire de l'expérience religieuse de l'Antiquité à l'histoire des croyances et des idées sur cette expérience, est un peu minimisant. Voilà tout simplement ce que je voulais dire, et pas seulement à titre des Hébreux et de leur monothéisme, mais sans doute aussi à titre des traditions païennes de l'Antiquité. Vous pouvez me faire encore une phrase. L'impression que j'ai eue, surtout en commençant à étudier la civilisation grecque, était une impression d'étonnement. Comment ces hommes étaient des géants dans tous les domaines, ils ont initié la civilisation que nous connaissons en Occident, à la manière de fondateurs géants d'une civilisation que par la suite leurs successeurs ont modifié, élaboré, sophistiqué, etc. Il faut être grand pour être le premier, si j'ose dire. Alors, mais Richard, alors, ils étaient donc géniaux en tout, mais dès qu'il s'agissait de l'essentiel de leur tradition spirituelle, c'était infantile. Il y a quelque chose là qui me gênait. C'est simplement ce que je veux signaler, que très souvent il y a ce risque. D'une lecture de ce problème au niveau uniquement de l'histoire des idées dans un immanentéisme pur et simple, alors que peut-être il y a à découvrir une dimension beaucoup plus profonde de la nature croyances religieuses, qu'elles soient d'ailleurs monothéistes ou païennes, dans la catégorie de la théophanie, dans la catégorie de la révélation. C'était sur le premier point.
Il y a des personnes qui sont impatientes de vous questionner l'un et l'autre. Alors il y en a déjà deux. Oui. Levez-vous s'il vous plaît pour que tout le monde vous entende. Dire que je suis d'accord avec Manitou sur un point d'abord.
Sur un point
précis. Il avait dit que je suis un juif d'origine ashkénaze. C'est vrai. Ça, c'est un point sur lequel je suis d'accord avec lui.
Peut-être que ça fait partie du sujet d'ailleurs.
Ça fait partie, effectivement, je ne suis que d'origine ashkénaze, donc toi tu es d'origine séfarade et tout. Mais cela n'enlève rien au fond du problème. Je ne suis absolument pas d'accord avec la présentation de Maïmonide qui est donnée souvent dans certains milieux. Où on essaye de rendre Maïmonide bien pensant et, disons, tout à fait traditionnaliste et certainement moins troublant qu'il ne l'est. En vérité, Maïmonide a analysé les problèmes de la genèse des sentiments religieux séparément. L'amour des dieux, la crainte des dieux et la connaissance des dieux, et certainement pas le problème des croyances, parce qu'il est clair que pour lui, il y a une équation entre croyance et connaissance. C'est-à-dire que la connaissance, la recherche de la connaissance, est au fond ce qui s'identifie à la croyance. Et il explique clairement dans sa métaphore du palais royal, dans les guides des égarés, où il est clair que la prophétie, ce n'est rien d'autre que le niveau le plus élevé de la connaissance. Donc, pour comprendre ces trois sentiments sur lesquels nous reviendrons, d'abord, croyance égale connaissance, donc, c'est un terme, quelque chose d'extrêmement vaste, ce n'est donc pas du tout, tout simplement une sorte de langue du cœur, et ça implique donc que toutes les puissances de l'âme sont donc à la recherche du fondement de l'univers. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'il est clair, si je citais Maïmonide, c'est parce que pour lui, effectivement, le polythéisme, ce n'est pas simplement une autre forme de croyance, c'est une méconnaissance. C'est une méconnaissance par rapport à la vraie connaissance. Donc la différence entre monothéisme et polythéisme est essentiellement une différence entre la vérité et l'erreur, et on pourrait dire scientifique, en termes médiévaux, en termes, disons, de philosophie médiévale. Bon. Deuxième élément, c'est le problème donc, de l'amour et de la crainte, effectivement, en opposition aux idées très répandues selon lesquelles, finalement, l'amour de Dieu serait le résultat d'une sorte de culpabilité, des sentiments de remords. Maïmonide considère que l'amour de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'admiration de la perfection de l'univers. Et il dit que lorsque l'homme considère les œuvres et les créatures de Dieu, merveilleuses et grandes, lorsqu'il aperçoit la sagesse divine, incomparable et infinie, se sent aussitôt envahi d'un sentiment d'amour et il célèbre. Donc, d'une certaine façon, il est clair qu'il y a la reconnaissance de la perfection de l'univers, de la perfection de l'œuvre et de la création, ce qui implique une connaissance. Je vous réinsère la question qui vient d'être posée, parce que votre exposé était entendu aussi comme, à partir de Maïmonide, comme la position aussi, analytique aussi, parce que c'est comme ça que votre exposé était annoncé, sur le paganisme. Et en particulier, la question qui était posée, c'était, alors qu'en est-il de ce que vous pouvez dire par rapport au désir et à la sexualité, telle qu'elle fait partie de l'expérience aussi du paganisme. Il est clair que...
Je retransmets la question.
C'est sûr. Pour que ça ne reste pas un débat entre maïmonidiens ou alléviens.
Oui, les deux sont tous.
Oui. Et il est clair que la tradition juive est tout à fait au courant de la force du sens, disons, de la problématique sexuelle par rapport au monde religieux. Et il y a énormément de textes qui réfléchissent à ces rapports aux motivations sexuelles dans certains cultes païens. Et Maïmonide le cite d'ailleurs dans le livre de la connaissance, particulièrement en ce qui concerne les cultes de Baal Peor. Mais en vérité, dans la vision des traditionnaires, il est clair que la sexualité apparaît comme une dimension dominante dans certains cultes, mais n'apparaît pas comme le moteur de l'expérience religieuse. Et ça me semble très clair quand on lit les descriptions données par tous les sages de la tradition les différentes formes de vie religieuse. Dans certaines formes, effectivement, apparaît donc un contenu majeur d'ordre érotique, et dans d'autres, certainement pas. C'est ça que vous avez signalé le cas effectivement de Freud. Si je n'ai pas cité ces sources, c'est parce qu'en Moïse et le monothéisme, on est un peu en dehors d'un certain nombre de problématiques freudiennes traditionnelles. Donc, ce qui semble intéresser l'auteur, c'est d'établir une filière de croyances. Et c'est la raison pour laquelle je crois que peut-être il ne l'a pas explicité, il n'a pas eu le temps de l'expliciter de la façon où vous le mentionnez.
Si, oui. Si vous me permettez une phrase et demie, ou peut-être deux et demie, sur le premier point en tout cas, de ce que vient de dire Oski, je serais d'accord avec lui que le débat sur le style, le fond, la portée, l'objectif de l'enseignement de Maïmonide reste ouvert. Simplement, je voudrais signaler que je ne pense pas du tout à Maïmonide bien pensant, mais à Maïmonide hébreu, au-delà de ce paradoxe. À Maïmonide hébreu, c'est-à-dire se rattachant par sa connaissance à la mémoire hébraïque, qui a gardé la connaissance de ce dont la Bible parle lorsqu'elle parle de théophanie à sa manière, et pas seulement du discours d'exposé philosophique qui lui a pour postulat que la révélation n'a jamais eu lieu. Escalité, je veux dire. Un philosophe peut être croyant d'autre part, mais en tant que philosophe, le postulat de la philosophie, je reviendrai peut-être jeudi, et de tout l'univers culturel qui en découle, et que la révélation n'a pas eu lieu. Et donc nous sommes renvoyés à ce schéma de l'histoire des idées dans l'effort de l'homme à la découverte de la connaissance et de ce qu'il en résulte. Et peut-être qu'Auguste Comte mériterait qu'on fasse mention de sa loi des trois états, l'âge théologique, l'âge positif, l'âge métaphysique, l'âge théologique. Je crois qu'il y a là l'illustration la plus éclatante chez Auguste Comte de ce que j'essaie de désigner en parlant du postulat universitaire. Bien que Auguste Comte est souvent connu comme un universitaire dissident. Mais en tout cas, à son niveau, je crois que c'est très clair dans ce qu'il dit. Écoutez, je voudrais simplement ajouter un élément à ce débat. Je crains que présenter ce problème au nom de Maïmonide uniquement comme un problème d'exploration immanente de l'homme livré à ses propres forces de connaissance, d'exploration au niveau du savoir, eh bien, ça risquerait d'imputer à Maïmonide ce que j'appellerais, ne vous étonnez pas, un racisme hébraïque. Ça voudrait dire que seuls les Hébreux savaient faire fonctionner ce qui leur sert de tête et de cœur pour atteindre la vérité religieuse, et que comme par définition les autres se trompent. Ça me gêne terriblement. Et je ne sais pas s'il était suffisamment clair, mais je vous rends la parole.
Alors, je vais, sur la question que vous avez posée par rapport à ça, il me semble, mais je pense que Freud n'est pas un théoricien du désir ou de la sexualité, même si dans la théorisation analytique actuelle, c'est un terme qui a pris une très grande expansion actuellement, le désir. Mais Freud, c'est un clinicien qui fait de la thérapie et qui, à partir de là, cherche à comprendre le fonctionnement humain et théorise à partir de là de façon continue, en marchant toujours. Et à partir de là, il arrive à ça. Alors, je crois que c'est dans une vision tout à fait dynamique, et il faut le situer aussi, Freud, dans quelques générations après ces immenses débats qu'il y a eu en Europe, dans le judaïsme européen, sur les questions en particulier sexuelles, avec le franquisme aussi, sur la connaissance. Et puis alors le refoulé qu'il y a eu ensuite, après cela, donc la recherche de Freud, c'est une recherche sur la connaissance, mais sur des vivants. Et dans une relation de parole, c'est là que ça se rejoint aussi avec les questions de morale et d'éthique, et il avait un extrême souci de l'éthique, et au niveau de la parole. Et puis je veux dire aussi qu'il a situé sa recherche, par rapport à des thèmes qui ont été abordés, il a situé sa recherche clinique, d'abord davantage au niveau de l'art, de l'image, du côté ostentatoire, avec l'hystérie, etc. Ensuite, il en est arrivé de plus en plus à la centrer, non sur l'image, mais sur la parole. Et il disait, j'étudie les rêves, la parole de mes patients, c'est dit explicitement même dans la science des rêves, comme un texte sacré. Bon, quand on sait quand on connaît un peu de près Freud, on sait ce que cela veut dire. C'est-à-dire que pour lui, la parole, c'était là que ça se jouait dans la parole, et il y avait une référence à une parole qui est donnée et que nous ne comprenons pas encore par rapport à ces termes qui ont été amenés d'une sorte de révélation, là elle est transcendante. Mais de toute façon, il se place devant le patient comme la parole ayant été aussi donnée par l'autre et que je dois essayer de la détecter. Alors, je vais passer une seconde question là. Deuxième, ensuite, une troisième là-bas. Oui, monsieur, pouvez-vous lever pour une seconde?
L'université n'est certainement pas aidée par la structure même du langage qu'elle utilise nécessairement, à savoir un langage.
Oui, prenez le micro pour poser votre question.
L'université n'est certainement pas aidée par la structure même du langage qu'elle véhicule nécessairement, c'est-à-dire un langage idiomatique. Et vous avez fait plusieurs séminaires sur ce problème fondamental.
Vous synthétisez votre question parce qu'il y en a beaucoup d'autres.
Dans la mesure où le langage idiomatique des nations a été voulu par le Créateur, c'est ce qui semble apparaître dans la Tour de Babel, on peut se poser la question si, au niveau du Créateur, la volonté du paganisme pour les nations n'est pas quelque chose. Il n'y a pas une certaine volonté de paganisme pour les nations de la part du Créateur.
Je répondrai peut-être très rapidement, évidemment pas, mais par conséquent, comment c'est arrivé, comment les nations, et d'ailleurs c'était un temps où il n'y avait pas encore Israël, comment l'humanité a commencé son histoire par l'histoire du paganisme. Et là, si j'en ai l'occasion, je dirais que ce que tu nous as cité à propos de Freud, me semble très proche de la tradition biblique elle-même, que pour la Bible, c'est la référence à Enoch. L'histoire des religions a commencé par le paganisme, avec l'exception d'initiés à l'échelle individuelle qui eux étaient monothéistes. Et là, le schéma est beaucoup plus familier, ce schéma freudien. Non, il n'y a pas du tout de volonté du Créateur de faire que les nations soient païennes alors qu'Israël soit monothéiste. C'est arrivé. Si nous avons le temps ce soir, sinon jeudi soir, je reprendrai cette référence de Enoch. Aussi avec la lecture de la phénoménologie, on se repenchera sur la lecture de Magnus qui est très...